Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Commençons ce matin par le dossier de la rougeole. On vous en parlait hier avec le docteur Boileau de la Santé publique. Il y a 10 cas de confirmés à Montréal et Laval. Et ce sont des cas qui inquiètent. C'est pas tant le nombre, mais le risque qu'il y ait quand même plusieurs cas qui s'ajoutent, qui posent problème dans les prochaines semaines. Parce que la semaine de relâche, c'est une semaine pivot. Beaucoup de gens sont à l'extérieur, sont partis en vacances, vont revenir, vont se retrouver dans les avions, vont fréquenter des lieux publics. Et le phénomène de la rougeole, c'est pas nord-américain seulement, c'est partout dans le monde où les taux de vaccination ont quand même baissé dans certains pays et aussi dans certains coins de certains pays, dans des régions où le taux de vaccination est très faible. Et je regardais ce matin la liste des endroits où on pense qu'il peut y avoir un problème pour les gens qui se trouvaient là à une date précise parce qu'il y a des cas de rougeole qui ont été détectés. On peut penser, bon, à l'hôpital Sainte-Justine, vous allez me dire c'est un hôpital, oui, mais il y a aussi le vol 208 de Royal Air Maroc de Casablanca à Montréal entre le 23 et le 24 février. Il faut surveiller ces symptômes jusqu'au 15 mars dans certains cas. Donc, il y a une période là d'incubation, et puis il y a des symptômes, des rougeurs qui peuvent apparaître, de la fièvre. On va y revenir avec le docteur Drouin de la Santé publique de Montréal ce matin. Mais c'est clair que la recommandation, c'est de faire vacciner les enfants qui ne l'ont pas été avant de retourner à l'école après la période de relâche. C'est la période pour ça. Vous pouvez prendre rendez-vous, c'est gratuit. Et je sais que c'est devenu un enjeu politique, la vaccination. Il y a une fatigue après la COVID et la série de vaccins. Puis là, je parle même pas des débats sur la pertinence des vaccins, parce que s'il y a un vaccin qui a prouvé son efficacité, qui existe depuis les années 60, c'est celui contre la rougeole. Ce matin, je regardais des chiffres. En 1963, il y avait 2,6 millions d'enfants qui mouraient de cette infection chaque année, ce qui est énorme. Et la rougeole n'a jamais complètement disparu, mais le niveau de vaccination a fait en sorte qu'il y avait une protection collective quand même très élevée. Et ce qu'on constate, c'est que il y a 49 pays qui enregistrent des cas de rougeole, je vous le disais, là, dans plusieurs coins du monde, parce que la vaccination semble intéresser moins de parents. Donc, je le disais, fatigue après la COVID, des craintes, puis dans certains pays aussi des enjeux financiers parce qu'il faut payer pour faire vacciner les enfants. Et dans le Globe and Mail, ce matin, André Picard rappelle que c'est le vaccin probablement qui a été le plus révolutionnaire, le plus efficace. Il y en a eu d'autres, là, mais c'est sûr que pour les gens qui, par exemple, ont été vaccinés deux fois comme ce qui est prescrit, ben vous n'avez pas à vous faire vacciner à nouveau. La protection existe et vous êtes donc immunisé. Je reviens sur le scandale de la DPJ à Laval, c'est-à-dire ces enfants qu'on a envoyés dans des salles de retrait, d'isolement, appelons ça de confinement, parce qu'ils étaient soit tannants ou encore parce qu'on n'avait pas de place pour eux. Il y avait surpopulation, puis on ne savait pas quoi faire avec les enfants. Régine Laurent, hier matin, ici à l'antenne, a crié, je dirais, sa colère. Elle a passé du temps à écouter, à rédiger un rapport en se disant « il va falloir que les choses changent ». Et j'écoutais ça hier, là, les réactions. La DPJ nationale qui était chez mon collègue Patrick Lagacé, qui répète toujours les mêmes histoires, qui nous dit que c'est en mouvement, que la liste d'attente baisse, qu'on est dans du recrutement, puis on ne l'entend pas, on ne la voit pas, on se demande si elle est efficace. Deux enquêtes ont été déclenchées. La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Donc, enquête pour savoir ce qui se passe au centre jeunesse quartier à Laval. Et ce qui est étonnant, c'est comment se fait-il que ce problème, qui n'est pas un événement, là, qui n'est pas un accident, qui n'est pas un cas isolé, qui est une pratique de gestion dans un centre, ça a pris des sonneurs d'alerte et ça a pris l'enquête du Journal de Montréal, Caroline Touzin et Ariane Lacourcière. Comment ça se fait que ça a pris ça? Comment ça se fait que, avec tout, en fait, toutes les équipes de gestion qui existent, il n'y a pas quelqu'un qui a dit « Hey, on a un problème là ». Là, on nous dit « Oui, mais on a fait des demandes parce que l'immeuble était vétuste ». Je veux dire, c'est inadmissible. On protège des enfants en les traitant de cette façon-là. Puis là, on va se réfugier derrière la bureaucratie et une enquête qui est en cours. Alors là, personne ne va parler. C'est écrit dans le ciel. J'en parlais avec le ministre Carman ce matin. Mais là, ça commence à faire. Là. Et là, certains intervenants disent qu'il faut y aller avec des états généraux. Puis c'était dans le rapport, M. Lebon, qui dit faut se parler, là, ça n'a plus de sens, la façon dont ces enfants-là sont traités. Et pour avoir vu ces salles de confinement, il n'y a personne qui veut rester là-dedans. Puis la petite salle avec un petit lit et un petit bureau dans un coin là, qui a l'air d'une cellule, tu te dis, écoute, on est en 2024 et c'est ça qu'on offre à des enfants qui ont des problèmes de comportement, des enfants qui ont des problèmes d'attachement, qui ont besoin d'être protégés. Puis ça, c'est tout ce qu'on arrive à leur fournir parce qu'on n'a pas d'autre place à les envoyer. C'est assez déprimant en soi. Et j'écoutais hier la réponse de la DPJ nationale. J'ai l'impression qu'on a créé une structure par-dessus qui donne, encore une fois, absolument rien. Une bonne nouvelle, c'est Québec qui va élargir l'accès pour le dépistage du cancer du sein. Radio-Canada nous dit qu'on va permettre aux femmes d'avoir une mammographie, des femmes de 70 à 74 ans. Là, c'était de 50 à 69. Il n'y a pas d'ordonnance, donc, et les femmes vont recevoir des lettres. C'est peut-être déjà votre cas. Le Québec est en retard. Là, on pense qu'on pourrait inclure les femmes de 40 ans, 45 ans. Plus on détecte rapidement, mieux c'est. Et il y a d'autres provinces où c'est déjà le cas. La Colombie-Britannique, l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Yukon, qui permettent aux femmes de prendre un rendez-vous pour un dépistage dès l'âge de 40 ans. Puis même dans certains cas, s'il y a des antécédents familiaux ou autre raison de santé, ben c'est possible de le faire aussi. Alors là, on est un peu mieux, mais disons que ça tarde finalement dans ce dossier-là. Et là, je vais vous raconter une histoire. Tu sais, le genre de truc qui fait grimper le ministre de la Santé. Une auditrice, une infirmière clinicienne, 17 ans d'expérience. Elle travaille dans un centre de soins de longue durée. Elle a un patient, elle l'évalue, puis ce patient-là, il faut qu'il obtienne des soins à l'hôpital. On n'a pas les ressources ici pour faire ça. Elle communique avec le 911. On lui répond que monsieur va assez mal et qu'il faudrait donc envoyer une ambulance le chercher pour l'amener à l'hôpital. Réponse, ça va dépendre parce qu'il faut faire évaluer le patient en question. Elle dit, je viens de le faire. Je suis une infirmière clinicienne. J'ai 17 ans d'expérience. Et oui, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Qu'est-ce que je vous dise? Oui, mais le médecin a confirmé mon évaluation. Et là, c'est la perte de temps. Puis c'est le niaisage. Pourquoi as-tu besoin d'une infirmière qui va venir encore dire probablement la même chose qu'une autre infirmière? T'sais, on demande-tu deux avis de médecin pour savoir si monsieur est souffrant à un point que sa place est à l'hôpital. Puis si tu as un P3, un P4, regarde, bouge. Mais c'est le protocole. Faut suivre le livre, puis c'est comme ça que ça fonctionne. Dernier petit volet en santé, ça fait pas trop de vagues, mais quand même, il y a des infirmières, du personnel là, d'agences privées qui, normalement, vont prêter main forte dans les hôpitaux. Et aujourd'hui et hier, ils sont entre guillemets, en moyen de sensibilisation. Ça veut dire quoi? Puis là, il y a toute une question de langage parce que les agences doivent fournir du personnel. Puis on sait que l'objectif de Québec, c'est de ne plus faire affaire avec les agences et en espérant que les agences se tournent vers le secteur public pour poursuivre leur carrière. qu'est-ce qui se passe, particulièrement en Montérégie? Puis c'est un groupe Facebook qui a lancé ça. Des infirmières qui décident de ne pas être disponibles. Elles ne l'étaient pas hier, elles ne le sont pas aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'elles refusent, ça veut dire qu'elles ne sont pas là. Et quel est l'impact de ça? Ça se passe principalement en Montérégie-Ouest. Alors, on a vérifié la réaction et elle est différente. Selon le 6 de Montérégie-Ouest, pas au courant de ça, puis ça paraît pas. Il n'y a pas eu d'effet sur les services ni sur les chirurgies. Réaction du syndicat. On est au fait des moyens de pression de la part des infirmières d'agences privées, ce qui amène des gestionnaires sur le plancher, ça force du temps supplémentaire, puis il y a encore des cas de gastro puis des employés qui sont absents. Fait que la vérité est probablement quelque part entre les deux, là. Mais ces infirmières qui ont communiqué avec moi disent on veut se faire respecter, puis c'est pas vrai qu'on va aller travailler dans le réseau public. C'est pas une question de salaire. Puis même s'il y a des avantages, c'est pas ça qu'on veut. Mais on est tanné d'être considéré comme des parias alors qu'on vient dépanner et qu'on donne des soins à la population. Dernier volet donc pour ce qui est de la santé ce matin. L'immigration au regroupement familial, c'est l'affrontement. On vous le disait hier matin, la ministre Fréchette sera avec nous tantôt. Et au-delà de la guerre des juridictions et des chiffres, il y en a combien? Puis le fédéral Miller qui débarque en disant « j'ordonne à mes fonctionnaires ». Puis là, mettons tout de suite le bémol, là, ça va prendre du temps avant qu'il passe à l'action. C'est pour mettre de la pression, dans le fond, sur Québec. Pour des raisons humanitaires, puis des raisons d'ouverture sur le monde, est-ce que c'est correct que des gens soient pendant un an, deux ans, à attendre l'arrivée d'un mari, d'une conjointe, d'un membre d'une famille? Et hier, il y a un gars, son chum s'en vient, il est marié avec, et il dit, ça fait plus que deux ans que j'attends. Puis, il n'y a pas d'enjeu de francisation, il n'y a pas d'enjeu de logement. Il va venir vivre avec moi. Pourquoi Québec tarde autant? Puis là, on est dans les seuils. Puis on se bat sur les chiffres. Puis j'en reçois combien? Puis c'est pas vrai. Ils rentrent par ici, mais ils s'en vont. Sérieusement, ces familles-là en ont un peu rôle-pompon parce que c'est une bataille politique puis c'est une bataille de bureaucratie. Et pendant ce temps-là, les gens qui attendent, la compétence, c'est pas Ottawa ou Québec, la compétence, ce serait de régler ces dossiers-là quand même beaucoup plus rapidement. Également, la bataille des terrains. On apprend ce matin que BRP va s'installer sur un terrain à Saint-Philippe-de-la-Prairie, donc en Montérégie. C'est l'entreprise qui fabrique, vous le savez, des trois roues, des motos marines, des motoneiges, bon. Alors, ils s'installent là. C'est un terrain où il est pas très loin. Il y a des résidences. Puis là, les gens sont furieux. C'est un centre de distribution de pièces qui doit être construit. C'est sur le bord de la 30. Et la ville dit ça va être hyper payant en taxes. Ça va créer des emplois. Puis c'est parfait. Ça va amener, évidemment, pas mal de transport. Puis là, il y a des gens qui s'y opposent, même s'il y a des garanties environnementales qui sont données, mais c'est un gros, gros projet là qui s'inscrit dans, si vous voulez, ce volet du parc industriel. Puis ce matin, concernant le fameux projet Northvolt, il y a Thomas Gerbet qui nous rapporte que les fonctionnaires de Québec savent pas trop quel sera l'impact environnemental du projet. Des citoyens qui ont participé à des assemblées pendant des heures à McMasterville et à Saint-Basile-le-Grand, avec des fonctionnaires du ministère de l'Environnement. Puis tu sais, la question, c'est, est-ce qu'il y aura des déchets, des émanations qui vont se retrouver dans le Richelieu? Quel sera l'impact sur la qualité de l'air? Puis les fonctionnaires semblent pas avoir la réponse. Alors, s'il y a des gens qui sont d'accord avec le projet, avec l'idée, c'est tant mieux. Mais là, il y a quand même un petit doute qui s'installe en disant, ouais, mais êtes-vous capable de répondre à nos questions? Puis sur la transparence, cette fois, les amis de Pierre Fitzgibbon, Thomas Gerbet, puis dans le devoir, c'est Alexandre Shield, qui a fait une demande par l'accès à l'information. Comme c'est souvent le cas, c'est noirci. Tout ce qui est intéressant n'est pas accessible. Et c'est sur, justement, l'impact environnemental du projet Northvolt. Alors, d'un côté, on nous dit qu'on est transparent. Là, c'est pas le secret de la fabrication de la batterie là ou des pièces. Là, c'est de savoir c'est quoi l'impact. Il me semble que ça doit pas être un secret d'État. Fait que mettez-vous à la place des citoyens. Encore là, le projet est probablement plus que positif pour le Québec, mais cette espèce de valse où on cache des affaires, ça devient un petit peu tannant. Et quand des citoyens de bonne foi disent « on sera d'accord, mais là, ils peuvent-tu répondre à nos questions? » On surveille aujourd'hui le super mardi aux États-Unis. Trump va gagner, c'est clair. Et la Cour suprême a dit une chose très simple, Pierre. Vous n'avez pas le droit d'enlever le nom d'un candidat. C'est ce qu'on a fait au Colorado pour Trump en disant « il est soupçonné, pas condamné, mais soupçonné d'avoir participé à l'état d'insurrection qui a mené aux émeutes du Capitole. » Puis il y a un amendement de la Constitution américaine qui prévoit que quelqu'un qui prône la sécession n'a pas le droit de se présenter. Mais tu sais, c'est une interprétation assez élargie. Alors, la Cour dit non, 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 non. Et comment peux-tu justifier qu'il soit barré au Colorado, autorisé dans le Nevada? Tu sais, ça n'a aucun sens. Alors, son nom sera sur le bulletin de vote. Et c'est aux gens à décider. C'est une victoire quand même importante pour Trump. Et déjà, on pense qu'il est en avance dans l'ensemble des États. C'est à peu près le tiers, un peu moins là, que le tiers des délégués qui seront choisis.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan.
Le ministre fédéral Mark Miller a donné le coup d'envoi hier à une confrontation, c'est assez clair, entre Québec et Ottawa au sujet du programme de réunification des familles. En gros, ce que le ministre Miller dit, j'ai donné ordre aux fonctionnaires de ne pas tenir compte des seuils fixés par le gouvernement du Québec pour des raisons humanitaires. J'en parle ce matin avec la ministre responsable de l'immigration, Christine Fréchette. Madame Fréchette, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
Avant de parler avec vous, je veux vous présenter un cas, pas pour vous le donner pour commenter ou régler, mais pour que les gens comprennent ce qu'on entend par réunification des familles. Jessica Desrochers est avec nous et elle attend d'être avec son mari depuis presque 2 ans maintenant. Madame Desrochers, bonjour.
Bonjour, M. Arcan, vous allez bien?
Bien. Racontez-moi un peu votre histoire. Vous êtes dans la machine depuis presque 2 ans, donc.
Oui, ça va faire 2 ans ce mois-ci, le 24 mars, qu'on attend pour être enfin réunis ici au Québec. On a une petite fille qui va avoir 2 ans dans 2 mois exactement aussi. Donc, c'est très difficile de voir que tous les jours, on doit essayer de créer le lien via FaceTime, via... les appels vocaux pour qu'elle entende ma voix, les photos. On essaie de voyager le plus possible. On sait que c'est difficile. On sait qu'il y a, un processus à l'immigration. Je pense que quand les gens ils ont des relations et qu'ils s'embarquent dans la machine d'IRCC, on est conscient de ça. On est prêt à accepter les processus, les papiers à remplir, mais au-delà de ça, il y a aussi un fait qu'il y a une limite de temps qui est inhumaine. Présentement, on est à 34, 36 mois de délai. C'est inimaginable de vivre ça. T'sais, quand on débute, on a 12 mois, on y va, on soit fort, puis qu'à tous les fois qu'on arrive prêt, il y a toujours un embûche qui fait que les délais augmentent. Et puis, c'est un peu ça qu'on essaie de combattre par le fait qu'on dit que les délais, il faut bouger, il faut faire quelque chose pour nous.
Le père de l'enfant se trouve dans quel pays?
En République dominicaine.
OK. Et donc, vous êtes ici et depuis presque 2 ans, on le disait, vous attendez de pouvoir permettre à monsieur, là, que l'État permette à monsieur de venir s'installer puis vivre avec vous.
Oui. Oui.
Est-ce que dans le processus, on vous donne un délai? Est-ce qu'on vous demande un nouveau document? Est-ce qu'on étire? Savez-vous pourquoi c'est si long?
Non. Dans le fond, c'est seulement les délais qui augmentent. On n'a pas demandé de nouveaux documents depuis plus d'un an. Nous avons rempli les examens médicaux. On a fait la biométrie. On a présentement, il y a eu un petit bug, je pourrais dire, dans l'IRCC l'année dernière quand tous les quand ils sont tombés en grève. Et puis depuis le 19 avril, on aurait les antécédents pénaux qui sont en cours, mais ça va faire bientôt un an qu'ils sont toujours pas terminés. Donc ça bloque là. Il n'y a plus rien qui se fait depuis plus d'un an là, dans le dossier.
OK. Merci, Mme Desrochers, d'avoir partagé ça avec nous ce matin.
Merci beaucoup.
Au revoir. Jessica Desrochers, donc, qui est en attente depuis 23 mois. Je prends ce cas-là parce qu'il y en a des milliers comme ça, là. Est-ce que c'est la machine qui peut pas traiter les dossiers ou c'est politique parce qu'on veut pas laisser entrer plus de gens?
Bon, c'est un ensemble de variables qui agissent dans le cas des regroupements familiaux. D'une part, on a, nous, des seuils qu'on a présentés pour les prochaines années au terme d'une consultation parlementaire. Et à l'intérieur de ces seuils, il y a une partie, autour de 10 000 admissions régulières, qui sont prévues pour les regroupements familiaux. Maintenant, les volumes de demandes ont augmenté de manière importante au cours des dernières années. Alors, même si on a eu l'adoption donc de 10 400, pour être plus précis, admissions dans le domaine du regroupement familial, comme ça a été le cas depuis 10 ans, le fait qu'il y ait un volume plus important de demandes dans le domaine des regroupements familiaux, c'est sûr que ça crée plus de délais. Ensuite, il y a le fédéral aussi qui n'a pas toujours respecté, à ce que nous dit la vérificatrice générale, le principe de premier arrivé, premier servi. Donc ça, c'est sûr que ça pose un enjeu parce qu'on peut avoir des gens qui attendent depuis plus longtemps mais qui ne passent pas en premier pour je ne sais quelle raison. Là, je pense que le fédéral va vouloir respecter ce principe-là. Et il y a aussi le fait
que... Mais pourquoi c'est au Québec que c'est plus long puis ailleurs au Canada, ça semble pas mal plus rapide?
Il y a aussi le fait que le Québec a émis plus de certificats de sélection du Québec, le CSQ, que sa capacité à admettre des gens lui permettait. Donc, il y a un décalage.
Pourquoi est-ce qu'on a donné plusieurs certificats si on n'est pas capable de les admettre?
Il y a un décalage, c'est ce qui crée en fait une prolongation des délais. Il y a un décalage entre le moment où les gens reçoivent le CSQ et le moment auquel ils sont invités à venir. Donc, ça fait partie des
enjeux. Mais pourquoi on a émis plus de certificats si on n'est pas capable d'admettre les gens?
Bien, ça a été quelque chose qu'il faut corriger, je pense. Quelque chose qu'il faut corriger pour éviter qu'il y ait justement un trop grand délai au terme du processus. Il y a aussi le fédéral, par ailleurs, si les gens veulent avoir une information sur le délai relativement à leur catégorie, le fédéral met en ligne les délais habituels qui sont associés aux différentes catégories.
OK, mais dans les faits, là, vous dites quoi aux gens là qui attendent un père, un conjoint? L'attente, là, c'est combien de temps pour vrai? Ça va être quoi?
Alors, je pense qu'on est à 36 mois à peu près pour les regroupements familiaux. C'est sûr qu'on est très conscient des impacts que ça a sur les gens. Hein, ça impacte sur la vie des gens, nos décisions. On est conscient de cet impact-là. Je sais que ça peut créer de l'anxiété. Ça peut créer de l'incertitude.
Si je m'installe dans une autre province, est-ce que je vais retrouver mon mari plus rapidement que si je reste au Québec?
Dans les autres provinces, les délais sont plus courts. Ça, je le reconnais, puis c'est quelque chose qu'on veut travailler.
Si, mettons, j'étais un petit peu snoro, là, j'irais m'établir dans une autre province, que mon mari pourrait arriver ou ma femme pourrait arriver au bout de 15 mois, puis je déménage au Québec après.
Ça se pourrait parce que dans les autres provinces, les délais sont plus courts en termes de regroupements familiaux. C'est quelque chose qui pourrait être envisagé par certaines personnes. Maintenant, nous, on veut travailler aussi à améliorer la situation. Donc, on a rencontré, par exemple, Québec Réunifié, qui est un des groupes qui promeut les demandes là, des gens dans un processus de regroupement familial. On les a rencontrés, mon cabinet les a rencontrés en décembre. On va les rencontrer à nouveau au cours des prochains jours. On est à identifier des voies qui pourraient nous permettre d'améliorer la situation dans le respect de nos seuils. Et ça, je tiens à le rappeler, le respect de nos seuils, c'est capital. C'est capital parce qu'on a cet accord depuis 1991 qui indique que c'est au Québec seulement à établir les seuils pour l'immigration permanente.
Je vais vous faire entendre un avocat que vous n'aimez pas là, parce qu'il poursuit le gouvernement, c'est Maxime Lapointe, qui lui a une vision, là, c'est un avocat en immigration, un petit peu différent.
Le Québec contrôle certaines catégories de l'immigration économique, mais le regroupement familial, le Québec a priori aucun contrôle dessus. Comme je vous dis, il étampe entre deux étapes fédérales.
En l'air, vous n'avez pas vraiment de contrôle là-dessus?
Bien, l'historique depuis 1991, c'est que tous les gouvernements, peu importe la nature des gouvernements, ont respecté les seuils d'immigration permanente.
Mais ils ne sont pas obligés.
Ils ne sont pas obligés, dans les faits. Ce n'est pas écrit noir sur blanc, mais les précédents sont à l'effet qu'ils ont tous respecté les seuils. Donc, on s'attend à ce que le gouvernement libéral actuel fasse la même chose. Pour nous, ça, c'est un incontournable.
Mais ça veut dire que M. Miller peut faire légalement ce qu'il a dit qu'il avait l'intention de faire, donc d'augmenter ou de ne pas respecter les seuils du Québec.
En fait, vous savez, on a eu une bonne conversation hier, mon équipe avec l'équipe du cabinet de M. Miller. Et pour synthétiser, là, je dirais, les attentes du fédéral, suivant la lettre qu'ils nous ont fait parvenir, il y a des passages de la lettre qui portaient à interprétation. Donc, on a vraiment voulu clarifier ce que ça signifie. Puis leur demande, ben, ça peut se résumer au fait qu'ils souhaitent que le Québec émette moins de certificats de sélection du Québec pour les trois prochaines années. Question de retrouver un équilibre entre ceux qui peuvent être admis et ceux qui ont une demande en attente au fédéral. Donc ça, dans le respect de nos seuils. Si effectivement c'est dans le respect de nos seuils, ben nous, on peut travailler avec ça. Si c'est au-delà de nos seuils, là, non. Ça, c'est incontournable, c'est non négociable. Nos seuils, ils découlent d'un processus à l'Assemblée nationale.
Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il n'est pas obligé de respecter ça.
Il n'est pas tenu, mais la jurisprudence, je vous dirais, la pratique est à l'effet que ça a toujours été respecté, puis on demande au fédéral.
Ça veut dire que s'il décide d'aller de l'avant, vous allez quoi? Aller devant les tribunaux faire reconnaître les antécédents?
Bien, en fait, ce qu'on comprend, c'est qu'ils n'iraient pas au-delà des seuils qu'on a adoptés.
Pour trois ans.
C'est ce que le cabinet nous dit. Alors, la sortie de M. Miller ne laissait pas entendre, ne laissait pas percevoir ça, mais dans les faits, son cabinet nous dit, ben non, voyez, on va relire la lettre ensemble et les passages qui nous questionnaient là, quant à l'interprétation qu'on devait y donner sont à l'effet qu'ils vont respecter nos seuils, mais qu'ils nous demandent de réduire le nombre de CSQ émis au cours des trois prochaines années. Question de retrouver un équilibre. Et ça, okay. On est capable de travailler avec ça.
Si je résume, Mme Fréchette, là, ça veut dire que quelqu'un qui vous écoute ce matin là pour réunir avec un autre membre de sa famille, là, se réunir avec un autre membre, c'est 3 ans minimum.
Ça risque de tourner autour de ça.
OK.
Mais ça, c'est pour 2024-2025. Je dois dire que l'année prochaine, on refait une consultation parlementaire et à nouveau, on va refaire l'exercice de notre composition de l'immigration permanente et des seuils. Et là, on va voir, est-ce que on garde ça autour de 10 400, comme ça a été le cas en novembre dernier, ou on va aller à un rehaussement ou une stabilité.
OK, mais à partir des données actuelles, c'est une durée de 3 ans. Que si je vais dans la province d'à côté, ça risque d'être plus vite.
Oui, effectivement.
OK. Troisièmement, de façon globale, je vous pose souvent la question, là, mais il y a tellement de catégories d'immigrants, de réfugiés, de demandeurs d'asile. En 2023, est-ce que vous savez combien de personnes sont venues au Québec, sont établies au Québec par le biais de l'immigration, par le biais de la réunification des familles, par toutes les catégories qui existent?
Ben, en 2023, c'était autour de 65 000.
Non, mais là, j'inclus les étudiants, les travailleurs temporaires.
Ah, okay. Tout le monde. Non permanent, là,
tous ceux qui ne sont pas permanents.
Bon, ben écoutez, dans les 60 000 pour l'immigration permanente et puis 528 000 selon les derniers chiffres en termes de résidents non permanents.
OK. Fait qu'on n'est pas loin de 600 000 personnes sur le territoire.
De ceux qui sont arrivés, qui sont présents sur le territoire, pardon, pas qui sont arrivés, qui sont présents sur le territoire au Québec en 2023.
OK. Est-ce que l'objectif, c'est de garder cette cadence-là ou de la réduire?
Non, c'est de la réduire.
À combien?
Non, c'est de la réduire. En termes de résidents non permanents.
Oui.
À combien? On n'a pas de chiffres, mais ce qu'on attend, c'est des gestes significatifs comme celui qu'a posé le fédéral la semaine dernière en lien avec les visas mexicains pour réduire notamment les demandeurs d'asile. Et là, on est en train de mener l'exercice au niveau des travailleurs étrangers temporaires, à savoir de quelle manière on peut réduire leur nombre parce qu'il y a eu une augmentation considérable de leur nombre. Et puis la capacité d'accueil, notamment en termes d'habitation, elle est atteinte.
Mais là, les employeurs me disent qu'ils ont d'excellents travailleurs qui viennent ici, puis c'est pas juste le monde agricole, là. Ils sont embauchés dans différentes entreprises. Il faut avoir ces gens-là parce qu'on n'a pas la main-d'œuvre au Québec.
Ça, il y a une difficulté dans l'analyse, à savoir que plusieurs de ces travailleurs-là permettent d'opérationnaliser nos entreprises, notamment en région. Beaucoup de PME recourent à des travailleurs étrangers temporaires et partout au Québec. Donc, c'est sûr que quand on dit qu'il faut réduire le nombre, il faut y aller d'une manière très analytique, je vous dirais, parce qu'il va falloir voir quels sont les impacts potentiels des décisions qu'on prendra, quels seront les critères de décision pour la réduction du nombre de travailleurs étrangers temporaires. Est-ce que ce sera sur la base du salaire, sur la base du volet stratégique d'un secteur donné de l'économie, ça reste à voir.
Mais là,
on est en train d'étudier différentes pistes.
Il y en a grosso modo 600 000 et vous dites, il y en aura moins.
Il y en aura moins. Puis là, la décision de la semaine dernière en lien avec les visas mexicains, c'est déjà un premier pas pour la réduction du nombre de demandeurs d'asile au Québec.
Merci beaucoup d'être venu ce matin.
Merci à vous.
Bonne journée. Christine Fréchette est la ministre de l'Immigration.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
On vous parlait hier matin de cette enquête de la presse concernant ce centre jeunesse à Laval où des enfants se retrouvent dans des salles de retrait de confinement parce qu'on manque de place, on ne sait pas quoi faire avec eux. Il y a une surpopulation durant certaines périodes. Deux enquêtes ont été demandées suite à ces révélations. Régine Laurent, qui a présidé la commission qui était avec nous, disait que ça n'avait pas de bon sens et qu'on ne pouvait pas tolérer ça et se demandait que faisait la directrice nationale de la protection de la jeunesse, un poste qui a été créé après le dépôt du rapport de la commission Laurent. Le ministre responsable des services sociaux est avec nous, Lionel Carman. Docteur Carman, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Ma première question va être très simple, dans le fond. Oui. Ce qui se passe à Laval, c'est pas un événement isolé, c'est une façon de gérer. Vous saviez pas ça, que c'était comme ça, dans ce centre? Puis à la DPJ, on ne savait pas, puis personne n'était au courant de ça.
Mais ce qu'on était au courant, c'est le débordement des centres jeunesse. Ce qui est arrivé avec la pandémie, c'est que plusieurs parents avec des enfants qui ont une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme, ont mis un genou à terre, puis on a placé leurs enfants dans les centres jeunesse, n'ayant pas d'autres sites. Donc nous, à ce moment-là, on travaillait sur développer des ressources pour ces enfants-là et les sortir des centres jeunesse. Puis moi, ce qui a été choquant dans le rapport d'hier, c'est que on parle qu'il y a une unité de vie qui est disponible, mais qu'ils envoient quand même les enfants dans la entre guillemets cellule. Ben c'est ça qu'on a trouvé inacceptable. Puis c'est pour ça qu'on a déclenché l'enquête. Pourquoi ils n'utilisent pas l'espace qu'on a libéré au cours des dernières années pour prendre soin de ces enfants-là?
Je fais entendre la directrice nationale de la protection de la jeunesse qui était chez mon collègue Lagacé hier après-midi. Mmh.
J'ai pas appris dans le journal ce matin qu'il y avait des défis à Laval. Je savais pas spécifiquement qu'on n'utilisait plus l'ancienne unité qui servait à débordement. Non, je savais pas ça, mais je sais qu'il y a des contentions et des isolements qui se font en centre jeunesse, puis qu'il y a des protocoles qui sont suivis en conséquence. Et la direction de Laval m'assure que les protocoles sont suivis.
C'est pas sa job, elle, de savoir ce qui se passe dans les centres?
Mais elle a des rencontres hebdomadaires avec les gens de la protection de la jeunesse. Donc, et c'est elle qui fait les suivis, effectivement.
Mais non, Mais trouvez-vous qu'une réponse comme celle-là, vous me dites, moi, je ne le sais pas, puis on ne savait pas, puis là, je demande une enquête. Elle sert à quoi, la directrice nationale, si elle ne sait pas ça?
Ben, elle a fait beaucoup de choses, la directrice nationale, M. Arcand. On a une nouvelle loi sur la DPJ, on a centré l'enfant au centre de la loi.
Ça ne veut pas dire grand-chose.
Ben, vous allez voir, il y a des choses qui ont changé dans les jugements au niveau de la Cour, au niveau de l'adoption, au niveau des tutelles. Il y a beaucoup de choses qui ont changé.
Ça, c'est correct.
On a travaillé beaucoup en amont de la protection de la jeunesse. Là, on est dans la phase 2 où on travaille sur les processus en protection de jeunesse, incluant les centres jeunesse.
OK. Vous me dites que l'enquête va permettre de savoir quoi?
Ben, pourquoi les enfants allaient dans cette cellule-là, alors que dans une autre unité, il n'y a personne? C'est cette attitude-là qu'on comprend pas.
On a-tu besoin d'une enquête où on pose les questions au gestionnaire, le responsable, puis si les réponses sont pas satisfaisantes, on change de gestionnaire?
On pourrait faire ça comme ça, mais écoutez...
Pourquoi une enquête? Pourquoi après ça, la Commission des droits de la jeunesse? C'est des processus qui finiront pas, puis pendant ce temps-là, les kids vont se retrouver dans des cellules.
Ben, c'est sûr, ça va pas assez vite à notre goût, mais je pense que c'est important de savoir qu'est-ce qui s'est passé de façon adéquate. Fait que, on a besoin de quelqu'un de l'extérieur qui vienne jeter un coup d'œil sur ce qui s'est passé à Laval.
Mais pourquoi on a besoin de quelqu'un de l'extérieur?
Ben, pour qu'il aille voir qu'est-ce qui s'est passé sur place, pour qu'il parle aux intervenantes, pour qu'il parle... T'sais, les intervenantes vous disent une chose, il faut avoir le portrait dédié des gestionnaires, puis ensuite on met tout ça ensemble.
OK. Est-ce que ce matin, vous savez s'il y a encore des enfants à Laval qui se retrouvent dans des salles de... confinement, là, de retraite, qui sont en fait des cellules. Il y en a-tu encore ce matin qui sont là?
Bon, on m'a dit que ça allait arrêter hier quand on en a parlé. Puis c'est la même chose qui s'est passée. Rappelez-vous, en Mauricie-Centre du Québec, ils mettaient des jeunes dans des foyers de groupe. On a demandé que ça arrête, puis c'est ce qu'on a fait. Ça s'est arrêté.
OK, mais là, est-ce qu'ils vous ont dit qu'il n'y en avait plus? Il n'y en aura plus? Est-ce qu'il y en a encore?
Il n'y en aura plus.
Mais il y en a encore ce matin?
Ben, en date d'hier, on me disait qu'il n'y en aurait plus, que cette pratique-là allait cesser.
Êtes-vous satisfait des réponses qu'on vous donne?
Mais écoutez, c'est sûr qu'on aimerait avoir des changements immédiats. Ça va pas assez vite, pas notre goût non plus. Mais les choses avancent, M. Arcand. Les choses s'améliorent.
J'ai un doute. Je vais vous dire pourquoi. Il y a 20 ans, je suis allé avec votre prédécesseur, Mme Delisle, dans un centre jeunesse à Québec, flambant neuf, où il y avait des salles d'isolement comme ça. Puis je suis rentré avec elle là-dedans, on a fermé la porte. Elle est en train de suffoquer. Elle est sortie en moins d'une minute parce que c'est pas un espace agréable. C'est pas normal qu'on mette des enfants là-dedans. C'est pas normal qu'un kid de 9 ans se retrouve avec un ado de 16 ans. Ça fait 20 ans qu'on fait ça au Québec. Puis là, vous me dites, ben là, on a des lois, puis on a une enquête. Okay. Cette culture-là de l'isolement d'enfants, ça fait au moins 20-25 ans que ça existe.
Effectivement, puis moi je l'ai visité là, le centre là, quartier, puis c'est pas un endroit qui est agréable à être là, incluant dans ces cellules-là. C'est pour ça qu'on veut pas que les enfants aient dans ces cellules. Mais encore une fois, Monsieur Arcand, nous le changement qu'on veut faire là, c'est moins de DPJ. Il faut pas que les jeunes aillent en centre jeunesse. On a mis des programmes comme Ma famille, ma communauté pour s'assurer que les jeunes ils soient pas placés en centre jeunesse, mais qu'ils aillent dans un autre milieu. J'aimerais vous parler d'un projet comme Agir ensemble à Granby puis en Estrie, où au lieu de signaler la DPJ, les organismes s'assoient ensemble puis essaient de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour aider les enfants. Ce qu'on a besoin là, c'est moins de DPJ dans la vie de nos jeunes.
Mais ça, et on comprend que l'idéal c'est pas de se retrouver dans un centre d'accueil. On est d'accord là, mais il y en aura toujours qui vont aller dans les centres d'accueil. Ça va continuer d'exister. Moi, j'ai vu des centres d'accueil où on n'a pas mis 5 sous de peinture depuis je ne sais pas combien de temps. Il y a des centres qui manquent d'amour. Comment ça se fait que, dans le cas de Laval, ils disent que ça fait depuis 2021 qu'ils ont demandé de rénover, d'agrandir parce que c'est désuet, puis qu'on est rendu en 2024, puis il n'y a pas l'ombre d'un projet?
Ben, on a augmenté le PQI de tous les établissements. Il y a d'autres priorités à Laval avant le centre jeunesse, l'hôpital, d'autres choses qui sont des maisons des aînés, Donc, il y a plusieurs projets qui sont en liste. Mais c'est sûr que pour l'amélioration annuelle des bâtiments, nous, on investit dans chaque établissement, là. Chacun a un budget d'amélioration. La plupart des centres jeunesse sont dans un état adéquat. Mais il y en a quelques-uns qui sont moins bons. Celui à Mont-Sainte-Anne aussi, on investit pour l'améliorer. Donc, il y a plusieurs travaux de... Mais l'important, c'est comment on prend soin de nos jeunes.
Mais c'est justement...
Pas le béton. Là.
Moi, ce qui me fascine, là, c'est que votre gouvernement fait construire des maisons des aînés qui sont sous-occupées. On n'a pas de personnel. Ça a coûté la totale. Mais on n'a pas de transfert massif de personnes âgées. C'est des maisons des aînés qui sont vides. Puis on a des unités qui débordent avec des enfants. C'est une logique dans ça.
Écoutez, nous aussi, c'est d'important, c'est d'améliorer les soins à nos jeunes. On a libéré de l'espace à Laval, puis l'espace n'est pas utilisé. Comme je vous dis, c'est ça qui est choquant dans tout ça. Moi, je comprends pas pourquoi les gestionnaires n'ont pas envoyé ces enfants-là dans des unités où il y a de l'espace, dans des unités de vie normales.
Avec grand respect, là, je me mets pas ça dans la tête que la directrice nationale n'a pas été informée de cette pratique, cette façon de gérer. Que ça a pris des sonneurs d'alerte pour nous dire qu'il y avait un problème. C'est grave, ça. Vous ne le saviez pas avant hier matin que c'était comme ça?
Non, moi, je l'ai appris hier matin en lisant.
C'est pas normal. Pas normal que quelqu'un dans votre machine n'ait pas été au courant ou que quelqu'un a cautionné ça. Puis ma crainte, c'est que les enquêtes vont prendre bien du temps pour arriver à ce qu'on pourrait probablement déterminer plus vite que ça.
Mais on va changer la pratique avant la fin de l'enquête, M. Arcand. C'est sûr que ce qu'on a lu hier, faut plus que ça arrive. Comme je vous disais avant, on envoyait des jeunes dans les foyers de groupe. On a mis fin à ça immédiatement. C'est des changements de pratique. C'est une pratique clinique inadéquate.
À votre connaissance, là, avant qu'on l'apprenne par nos amis de la presse, est-ce qu'il y a d'autres centres jeunesse où on utilise des salles de confinement comme ça, comme cellules pour enfants?
Non, pas à ma connaissance. Mais c'est sûr qu'on va faire le tour de tous les sites, là. C'est sûr qu'on va s'informer de ça. D'ailleurs, justement, à cause des débordements, il y avait des cellules de crise à chaque semaine pour savoir où on allait placer les jeunes en débordement, M. Arcand. On a investi des millions de dollars pour sortir ces enfants handicapés qui n'étaient pas à leur place. Donc, on a travaillé là-dessus. Puis ce qui est décevant dans toute cette histoire, c'est qu'il y avait de la place et elle n'était pas utilisée.
J'entends aussi depuis hier un certain discours qui est de dire aux parents... Occupez-vous de vos enfants, puis arrêtez d'appeler la DPJ, même quand vous êtes débordé. Puis j'entends ça, là, ça résonne. Des gens qui ont des enfants handicapés, des enfants qui souffrent d'autisme, par exemple, puis tout ça, puis qui ont des enjeux, puis que là, les parents sont à bout, ils savent plus quoi faire de leurs enfants, puis c'est comme l'urgence pour un hôpital, la DPJ, c'est comme la porte d'entrée.
Ça, c'est sûr que c'est le changement de culture qu'on veut mettre sur pied. C'est qu'il faut que la DPJ soit dans les cas extrêmes, les soins intensifs. des services sociaux. Donc nous, on a offert beaucoup plus de services en première ligne pour justement s'assurer que ces enfants-là soient pris en charge d'une autre façon. Même chose quand les parents ont des problèmes de santé mentale. Ce qu'on n'a pas besoin, c'est pas de leur tirer l'enfant, c'est de les aider, les gens qui ont des problèmes de santé mentale. Quand ils ont des problèmes avec un trouble du spectre de l'autisme ou une déficience intellectuelle, on a besoin de prendre charge de leurs problématiques neurodéveloppementales, pas de les sortir de leur famille. Fait que ça, c'est un changement fondamental qui prend du temps à se mettre en place. Mais c'est vers ça qu'on va.
Je comprends votre intention là et c'est très louable. Ma question, c'est est-ce que ces ressources-là existent vraiment ou c'est un souhait?
On a ajouté 1500 équivalents temps complet là, dans le réseau de la jeunesse depuis notre arrivée. Donc, on continue.
Juste une question technique. Là. 1500 postes ou des postes qui ont été comblés?
Bien, ça inclut des postes comblés. Ça inclut des postes qui étaient vacants et qui ont été comblés.
Mais est-ce que je...
Mais il y a 1500 personnes de plus sur le terrain, par exemple.
Pour vrai, là, ou c'est juste des postes puis qu'il n'y a pas de main-d'œuvre, il n'y a pas...
Non.
Il y a 1500 personnes de plus.
Sur le terrain. Okay. Dont 500 à la protection de la jeunesse. Donc, on a ajouté du monde sur le terrain. Tu sais, agir tôt, on dépiste tous les enfants à 18 mois. S'il y a des problèmes de développement, s'il y a des problèmes familiaux, on peut agir à ce moment-là.
Mais souvent, c'est que c'est un beau succès de dépistage, mais il n'y a pas de service après.
Mais encore une fois, quand on a des pistes à 18 mois, on a du temps avant d'agir. Faut pas s'inquiéter. Les services vont arriver bien avant l'entrée à l'école. Puis quand c'est des manques de stimulation, les services vont être là, puis l'enfant va pouvoir récupérer. Donc nous, faut vraiment se dire que la culture qu'on est en train de mettre en place, c'est des services en amont de la DPJ.
Puisqu'il y aura des états généraux de la protection de la jeunesse.
Oui, oui. Et pour les centres jeunesse en soi...
Ça va être quand, ça, d'après vous?
Ben c'est dans la phase 2. Madame Lemieux disait d'ici quelques semaines, peut-être donner un peu plus de temps, là, parce qu'on est en train de travailler sur le projet de loi du commissaire. Puis ça aussi, le commissaire, c'est quelque chose d'important. Nous, ce qu'on veut, c'est que dans les centres jeunesse, les gens savent que s'ils ont un problème, ils peuvent parler au commissaire, aux droits des enfants, aux droits et au bien-être des enfants.
Il y a beaucoup de structures. Hein? Une DPJ nationale, un commissaire, la commission, c'est... Vous trouvez pas que c'est...
Ben, j'ai besoin de beaucoup d'aide, M. Arcan, puis imaginez...
Les parents aussi ont besoin de beaucoup d'aide. Mettrait oui. Mon effort plus là que sur des structures, mais ça...
Oui, mais si on n'avait pas une sous-ministre qui s'occupait juste des jeunes, il faudrait qu'elle s'occupe également, comme avant, là, ce qu'on a mis en place. Il y a la santé mentale, il y a l'itinérance, il y a les dépendances, les surdoses. On a beaucoup de sujets chauds en services sociaux. On les attaque tous de front. Moi aussi, je trouve que ça va pas assez vite, mais encore une fois, je pense que les choses avancent dans la bonne direction.
Merci d'être venu ce matin.
Merci à vous.
Bonne journée. Docteur Lionel Carman, le ministre responsable des services sociaux. Maintenant, le programme québécois de dépistage du cancer du sein est élargi aux femmes de 70 à 74 ans. Actuellement, ou en tout cas jusqu'à ce changement, c'était de 50 à 69 ans. On vient d'inclure les femmes de 70 à 74. Mais il y a bien des questions, puis des auditrices nombreuses nous disent, mais pourquoi pas à 40 ans, pourquoi pas à 45 ans? Qu'est-ce qui fait que on n'a pas une couverture de dépistage plus large? Docteur Dominique Sinotte est avec nous, chirurgienne spécialisée donc dans le cancer du sein. Docteur Sinotte, bonjour.
Bonjour.
70 à 74, on se dit, bon, c'est une bonne nouvelle, mais pourquoi ça démarre pas plus tôt, comme on voit dans d'autres provinces?
Mais en fait, c'est la question que je me demande depuis 30 ans. Et puis, en fait, il s'agit de démarrer à un moment donné. Là, on a pris 70 là, jusqu'à 75 ans. Pourquoi pas 79 ans? Tout est une question aussi de statistiques en tant que telle, de pouvoir rapporter les cancers. Il y a un phénomène aussi que le programme québécois de dépistage cancer du sein, ça le dit tout seul, ça dépiste le cancer du sein. J'ai toujours dit la même chose depuis 25 ans, c'est que faudrait peut-être pas dépister le cancer, il faudrait peut-être dépister le pré-cancer, les atypies, le cancer in situ, et puis ça, il faut le faire avant d'avoir le cancer et l'inclure dans nos statistiques. Or, en 1995, c'était brillant, ce programme de québécois de dépistage cancer du sein. On envoyait une lettre à tout le monde, tous les deux ans, et on voulait rejoindre toutes les femmes qui n'avaient pas de médecin de famille. Fait que ça vous dit-tu que ça s'est pas amélioré, les médecins de famille, en 2024, puis ça existait déjà en 1995. De ce côté-là, il y a le fait qu'on a ciblé des femmes pour voir si les cibles du programme allaient fonctionner. On voulait que 70 % des femmes au Québec participent à avoir une mammographie aux deux ans. Mais il y avait aussi les femmes qui avaient aussi une prescription de mammographie par leur médecin de famille. Fait qu'on n'était pas sûr si ça allait être inclus dedans, comment on allait faire les statistiques. Et par la suite, on se disait, ben, on peut pas regarder juste les femmes qui participent au programme de dépistage pour concernant la diminution de la mortalité. C'est ça le but dans la vie. On veut plus mourir du cancer du sein. Il fallait aussi inclure les femmes qui participaient pas au programme, mais qui avaient déjà une mammographie. Ça devenait compliqué. C'est aussi de plein de statistiques. Malheureusement, quand j'ai une patiente devant mes yeux, là, c'est pas une statistique.
Non, mais docteur Sidotte, j'allais vous dire, me semble que le bon sens, là, puis peut-être je me trompe, là, mais que le bon sens, c'est de dire, plus je dépiste tôt, plus j'ai des chances de pouvoir mieux accompagner la patiente, mieux traiter, mieux soigner. Il me semble que, pour vous, l'âge idéal pour démarrer, c'est quoi, 40 ans?
40 ans. Okay. Alors, moi, je vous engage. Hein, le gros bon sens, il paraît-il que c'est pas tout le monde qui l'a, mais il faut aussi faire ce qu'on appelle des études ciblées avec des statistiques patentes, c'est-à-dire des statistiques réelles. Mais aussi, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut comme statistique. Si on cible seulement le dépistage du cancer du sein, toutes les patientes que je vois à 42 ans, que j'opère pour de la typie sévère ou du in situ, sont pas comptabilisés dans le programme parce qu'ils n'ont pas le cancer du sein. Mais merci mon Dieu, on a peut-être évité qu'elles aient le cancer du sein dans 5 ans. Mais ça, actuellement, il va falloir le prouver. C'est plus difficile au niveau statistique. Mais vous avez raison qu'il y en a qui se sont réveillés. Alors, le dépistage existe à 40 ans, pas loin de chez nous, à l'île du Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique. L'Ontario commence à l'automne 2024 à faire le dépistage à 40 ans. Le Nouveau-Brunswick, sous peu. Alors, nous, je sais pas, on s'est intéressé plus aux personnes plus âgées, 70 à 74 ans. C'est déjà pas pire parce qu'évidemment, l'espérance de vie d'une Québécoise, c'est 85-86 ans. Et je pense qu'il faut faire un dépistage chez tout le monde qui a une espérance de vie de plus de 10 ans. On ne fera pas un dépistage peut-être à 92 ans. Là, ça deviendrait peut-être un petit peu un peu pousser l'affaire. Mais moi, je suis tout à fait d'accord que là, on a augmenté le dépistage de 70-74 ans. 70 ans, là, c'est jeune. 70 ans, les gens sont actifs. Là. Ma mère a 85 ans, là, je peux pas la suivre. Là. Alors, il faut dépister ces gens-là. Je comprends pas pourquoi on disait « Ah non, c'est fini, 69 ans, that's it, that's all. » Je comprends juste pas.
Est-ce que, puis là, j'ai déjà entendu ça, puis je veux avoir votre avis d'experte là-dessus. Là. Est-ce qu'un cancer chez une femme de 42 ans, par exemple, est toujours plus virulent? Un cancer chez les jeunes femmes, c'est toujours plus virulent qu'un cancer chez des personnes plus âgées?
Mais là, il faut faire attention. Parce que quand on n'a pas un dépistage, on va attraper, en guillemets, le cancer chez les femmes de 40 à 49 ans quand c'est déjà plus avancé.
Okay.
Donc, parce qu'il y a des symptômes. On n'en veut pas de symptômes. On veut le détecter quand c'est minuscule. Donc, ça, c'est une partie de la réponse. L'autre partie, c'est qu'il y a certains cancers qui sont beaucoup plus agressifs. Par contre, pour les 80 % de cancers qui sont pareils comme ceux qui attaquent les femmes de 50 ans et plus, ben il faudrait faire le dépistage en tant que tel. Alors, oui, il y a une portion qui est plus agressive, mais non seulement à cause du type de cancer, mais aussi parce qu'on le détecte plus tard. Alors, même ces cancers plus agressifs-là, si on les détectait minuscules, ben moi, je pense qu'on pourrait les guérir ou du moins avoir une survie, une morbidité extrêmement diminuée, puis mieux les traiter, puis qu'elles aient pas un stade très avancé.
OK, j'ai une question d'une auditrice. Et elle dit, en fait, c'est un commentaire et une question en même temps. Elle dit, mes amis et moi avons cessé d'aller faire les mammographies parce que nous avons reçu des faux diagnostics, là, des faux positifs. Ça nous a inquiétés plus qu'autre chose. Est-ce qu'il y en a beaucoup des faux résultats?
Ben oui, en fait, il y en a, mais il faut savoir aussi que quand on fait une mammographie, il faut la faire dans un centre qui est désigné. Donc, un centre de mammographie qui a été vérifié par le gouvernement et les radiologistes doivent être spécialisés pour détecter les maladies du sein. Et quand ils sont spécialisés pour détecter la maladie du sein, ils vont pas crier à tout bout de champ, biopsie, contrôle, faut en faire. Oui, ça existe parce qu'un radiologiste ne veut surtout pas manquer un cancer chez une personne qui pourrait mourir. Et on accepte à ce moment-là d'avoir 3 personnes qui ont eu une biopsie pour, en guillemets, rien. Par contre, on en a sauvé une. Par contre, j'ai encore un bémol. J'ai encore un bémol là-dessus parce qu'il y a des femmes qui ont une biopsie puis on dit « ben j'avais pas le cancer, j'ai une biopsie pour rien ». Attention, vous aviez peut-être de l'atypie. De l'atypie, c'est un pré-pré-cancer, faut l'enlever. Il y en a d'autres qui peuvent avoir des hyperplasies atypiques. C'est toutes sortes de petits détails qui font qu'on va les surveiller plus de plus près. Donc, il faut faire attention, c'est pas blanc et noir. Il y a des moyens, il y a des biopsies qui sont faites en guillemets, qui sont interprétés par le médecin ou par la patiente pour rien. Mais c'est pas vrai.
Okay.
Parce que quand on a une biopsie qui est faite pour rien, là, que vraiment c'est du tissu normal, là, puis vraiment il n'y avait rien de sous-jacent, ben je vous conseille de refaire la biopsie.
OK. Merci beaucoup, docteur. Bonne journée à vous, docteur Sinnott.
Merci. Au revoir.
Au revoir. Docteur Dominique Sinnott, qui est chirurgienne en oncologie, spécialiste du cancer du sein.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
Nordvolt. Alors, ce matin, Thomas Gerbin de Radio-Canada nous parle de ces assemblées citoyennes qui ont eu lieu, McMasterville, Saint-Basile-le-Grand, où les gens ont pu poser des questions aux représentants du ministère de l'Environnement. Et parmi les questions qui reviennent, ce sont toutes les questions reliées au rejet dans le fleuve, pas dans le fleuve, mais dans la rivière Richelieu, pardon, de matières toxiques, la qualité de l'air, ça va ressembler à quoi, et semble-t-il que le ministère n'a pas d'idée précise. Ils savent pas non plus les quantités rejetées dans la rivière Richelieu, les quantités d'eau qui seront prélevées pour refroidir le procédé industriel. Il y a également Alexandre Shields, les deux amis de Pierre Fitzgibbon, qui dit qu'il a fait une demande d'accès à l'information, que sur justement l'impact environnemental, pas moyen d'avoir des informations, c'est noirci complètement. Le maire de McMasterville, Martin Dulac, est avec nous ce matin. Monsieur Dulac, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Vous, êtes-vous satisfait des réponses données par le ministère de l'Environnement?
Ben écoutez, on a demandé, nous, au ministère, de venir expliquer à nos populations comment ce projet-là serait encadré d'un point de vue légal pour s'assurer que les impacts sur l'environnement soient minimisés. Donc, oui, après plus de 7 heures là, de questions et de réponses, on est quand même rassuré de voir la rigueur là, qui va être mise en place, entre autres par le ministère de l'Environnement, pour faire en sorte que le projet Nordvolt soit un succès dans notre communauté.
OK, mais là, quand je dis ça ce matin, c'est qu'ils répondent pas vraiment aux questions. Ils n'ont pas l'air de savoir l'impact réel. C'est peut-être à venir, mais pour l'instant, vous, avez-vous des réponses précises?
Ouais, ben en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre de ce projet-là, là, pour des raisons d'efficacité et de débureaucratisation, je vous dirais, là, le ministère a choisi de traiter le projet par différentes phases. Donc, à ce moment-ci, il y a des certificats d'autorisation qui ont été émis pour les travaux préparatoires du terrain. Donc, des analyses ont été faites. Hein. Plus de 2000 pages de documents ont été remis au ministère là, pour procéder à l'analyse. Maintenant, il y a d'autres certificats d'autorisation qui devront être émis en cours de route. Le prochain concernera fort probablement la construction de l'édifice en tant que tel. Et plus tard, il y aura des certificats d'autorisation pour la mise en opération de Nordvolt. Donc, c'est à ce moment-là que Nordvolt devra indiquer au ministère là, la nature et les quantités de rejets qu'il prévoit émettre.
Mais je comprends la procédure d'étape, mais quand un projet est enclenché comme celui-là, on devrait pas être en mesure de dire ça dès le départ, parce que si on refuse ou qu'on veut le faire modifier, on va pas se retrouver devant le fait accompli.
Oui, ben effectivement, je pense que c'est un projet d'exception qui amène également une façon de le traiter de façon exceptionnelle. Hein. Vous savez, il y a plusieurs usines là, qui sont actuellement en construction en Amérique du Nord. Il y a une course contre la montre pour la construction de ces usines-là. Mais le ministère est présent à chaque étape. Puis il faut se rappeler qu'il y a un cadre réglementaire et le fardeau de répondre aux exigences légales et réglementaires en matière d'environnement, il appartient à Northvolt. Donc, c'est un risque que Northvolt prend en procédant de cette façon-là, mais ils se sont engagés dans cette démarche-là, donc j'imagine qu'ils sont confiants de pouvoir répondre aux différentes exigences qui vont être émises par le ministère.
Mais je voyais des citoyens favorables au projet, là, qui sont d'accord avec l'implantation de l'usine, être un peu plus, disons, en deux chaises en disant « mais là, ils sont pas capables de répondre à nos questions, puis quelle est la quantité d'eau qui va être prise dans la rivière Richelieu, les émanations, si on n'a pas ça, comment est-ce qu'on peut décider si le projet est bon ou pas? »
Bien, en fait, la réponse qui a été apportée par le ministère à ces questions-là, c'est qu'il y a un cadre réglementaire, puis il n'y aura pas de passe-droit, puis il n'y aura pas de chèque en blanc. Et puis, moi, comme maire de la municipalité, il est clair qu'on n'acceptera aucun compromis sur le respect des normes environnementales au Québec, là. Donc, on veut s'assurer que ce projet-là contribue à la qualité de vie de notre communauté. Puis en matière d'environnement, on va être absolument intraitable. Là. Je comprends que les questions subsistent. Là. Il est très rare que des citoyens là examinent de façon aussi précise le développement d'un projet industriel. Mais maintenant, les réponses vont venir en cours de route lorsque les demandes de certificats d'autorisation vont être déposées par Northvolt. D'ailleurs, Northvolt s'est engagé à publier éventuellement la nature des rejets qui vont être émis. Puis on se rappelle que l'entreprise a passé au travers un processus réglementaire en Suède, hein, qui est reconnu pour ses valeurs environnementales qui sont très fortes. Donc, on est confiant. Puis on s'attend même à ce que Northvolt ait des normes aussi élevées, sinon plus, pour leur projet ici à McMasterville.
En tout cas, vous avez des citoyens, je dirais, motivés et qui font leur devoir avant d'aller aux assemblées?
Ben, vous savez, il y avait une centaine de personnes lors de l'assemblée à McMasterville. Puis c'est correct, hein? Nous, comme administration municipale, on a demandé la tenue de ces rencontres-là par le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Économie, le ministère des Transports, pour justement que le gouvernement ait l'occasion de répondre aux questions citoyennes qui relèvent de leur champ de compétences. Donc, nous, on a fait notre part du côté municipal. On a expliqué à notre population ce que ce projet-là comportait pour la population de McMasterville. Maintenant, il y avait lieu que le gouvernement du Québec vienne apporter des précisions, puis je pense qu'ils l'ont fait. Il y a des citoyens qui demeurent avec des questionnements pour des raisons idéologiques, pour des raisons politiques. Donc, il y a des gens qui ne seront jamais satisfaits, je crois, là, de la nature des réponses qui vont être apportées. Mais je pense que le gouvernement du Québec et la municipalité, on a fait notre part là pour que les gens aient accès à toute l'information qui est disponible à ce moment-ci. Puis, il y aura d'autres informations okay. qui seront disponibles éventuellement.
Avez-vous des nouvelles, justement, de Transport Québec là sur l'impact sur la 116? Est-ce qu'ils ont déjà dans les cartons des projets pour faire face à l'augmentation du trafic?
Oui, mais en fait, il y a eu des comptages qui ont été faits. Là. Puis, selon les données qu'on a à ce moment-ci, ce qui est anticipé comme hausse de l'achalandage, on parle de 6 à 8 % d'augmentation de la circulation sur la route 116. Donc, ça demeure quand même assez marginal. Surtout pour une route nationale de cette envergure-là. Là. Donc, on n'anticipe pas de grandes problématiques avec l'arrivée de Northvolt. Puis, vous savez, il n'y aura pas 3000 employés sur le site du jour au lendemain. Ça va se faire de façon progressive. Ça va se faire sur différents corps de travail.
Mais c'est pas la 116, notre... dites-moi donc ça. Moi, j'ai des gens qui habitent là qui me disent que déjà, actuellement, c'est pas mal en surchauffe.
Ben, écoutez, il y a certainement des journées où l'achalandage est plus important. Maintenant, nous, ce qu'on veut mettre en place, c'est des conditions favorables pour que les gens utilisent au maximum le transport collectif pour se rendre au pôle d'emploi que va représenter Northvolt. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on a d'ailleurs interpellé le ministère des Transports, l'Autorité régionale de transport métropolitain pour que déjà ils travaillent à mettre en place le okay. service là pour que lorsque Northvolt sera en opération, ils puissent répondre à la demande.
OK, M. Dulac, merci. Bonne journée.
Ça me fait plaisir. Bonne
Au revoir.
Journée.
Martin Dulac, est le maire de McMasterville. Je suis terrorisé à l'idée de voir que l'autorité régionale va se mettre là-dedans. Parce que, disons que, en termes de paperasse, si je regarde les offres de transport en commun, entre autres sur la rive sud, dans le coin de Châteauguay et tout ça, donc, ça rayonne.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.